écoutez l'émission À nos mémoires, le portrait de Jean d'Issy, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damaggio. Bonjour, aujourd'hui c'est donc le tour d'une femme, Pétronille Cantecor, une personne à laquelle je suis très attaché, parce que son exploit est quand même assez considérable. Bon, beaucoup savent qu'elle est fondatrice des industries, de l'industrie du chapeau, mais la légende fait que parfois, eh bien, elle masque un peu les réalités. C'est ainsi que, par exemple, dans la dépêche du 5 février 1960, sous une photo, nous lisons cette légende. Madame Bache, mère, est à 86 ans, la doyenne des ouvrières caussadaises. Elle est toujours solide au poste dans l'usine que son fils dirige. Elle a connu Pétronille Cantecor. Elle se souvient fort bien des débuts hésitants de l'industrie de la chapellerie. À l'époque, les ouvrières travaillaient 10 heures par jour sur des machines rudimentaires actionnées à pied. Que de chemin parcouru depuis. Il se trouve que le 5 février 1960, eh bien, Madame Bache avait la mémoire qui flanchait un petit peu, mais je ne vais pas lui en faire reproche, parce que c'était un lieu commun que j'ai pu encore découvrir dernièrement sur une carte postale, où on voit Pétronille Cantecor, enfin, on va dire une image d'elle, imaginez. Et qui fait que ben, Pétronille Cantecor, elle aurait débuté l'industrie du chapeau autour des années 1860. En 1860, malheureusement pour Pétronille, elle était déjà décédée depuis pas mal d'années. Alors, c'est vrai qu'elle est morte très âgée, et par conséquent, c'est assez difficile parfois de remonter les actes de l'état civil. Mais tout de même, il est temps de retrouver la vraie date de naissance de Pétronille Cantecor. Vous la trouverez sur le site de la mairie de Sept-Fonds, qui est présente de manière assez juste ce qu'on doit connaître de la vie de Pétronille. C'est un point précis, intéressant, et qui recoupe ce que j'ai pu écrire il y a déjà donc pas mal d'années, puisque c'était en 1998, dans une brochure qui s'appelait « Miss Cantecor et les chapeaux ». C'est à ce moment-là que je me suis penché sur l'histoire de Pétronille. Alors, comment essayer de retrouver dans les papiers des actes de l'état civil, comment essayer de retrouver la vraie date de naissance de Pétronille? Bon, je cherche pas la vraie date de naissance de Pétronille simplement pour le plaisir de l'historien, mais c'est parce que suivant l'âge, suivant cette date de naissance, on peut apprécier la création des industries du chapeau à cette fond de manière différente. Bien, donc pour chercher, le plus simple, c'est quand elle se marie avec Louis Flavien Weiss, qui est âgé de 51 ans, le 5 juillet 1918. Eh oui, 1918, elle se marie avec ce monsieur qui s'appelle Weiss, et à ce moment-là, en 1918, elle a une profession. Sur l'acte de mariage, elle est indiquée comme étant une marchande. Elle ne s'appelle pas Cantecor, elle ne s'appelle pas Weiss, elle s'appelle Cantecor uniquement parce que auparavant elle s'était mariée avec Jean Cantecor. Elle s'était mariée avec Jean Cantecor en 1787, c'est-à-dire avant la Révolution, et elle avait 17 ans. Donc dans les deux cas, avec ces deux actes d'état civil, on peut découvrir, et j'ai l'acte de naissance sous les yeux, on peut découvrir qu'elle est née le 28 février 1770, sous le nom de Perrette Gleille, dans la paroisse de Saint-Martin de Sesquières, puisque la révolution n'avait pas eu lieu, et à ce moment-là, nous en étions encore à l'époque des paroisses, et non pas à l'époque des communes. Cette paroisse va être rattachée à la commune de Caussade, donc, en vérité, Pétronille de Cantecor est né sur la commune de Caussade. Mais c'est vrai que arrive ensuite la fameuse légende de la bergère qui va ramasser des morceaux de paille et qui va en faire des tresses. Et puis avec les tresses, elle va les coudre et avec les tresses cousues, on fait des chapeaux. C'est très beau et c'est sans doute une part de la vérité, mais une part de la vérité qui nous oblige, parce que on est ici dans une émission qui traite d'histoire, qui nous oblige d'observer un phénomène qui s'appelle la Révolution française. Et oui, la Révolution française libère ce qu'on appelle le travail. Elle détruit les corporations et elle en appelle à l'initiative populaire, à l'ingéniosité de chaque citoyen et de chaque citoyenne en l'occurrence. Et donc, Pétronille de Cantecor va bénéficier de cette libération des esprits, de cet engouement pour la création, pour l'invention. Bon, c'est ainsi que naissent les forges de Bruniquel, par exemple. C'est la même, on va dire, c'est la même veine, même si c'est pas le même domaine, puisque c'est la sidérurgie. C'est la même lancée, quoi. Donc, nous sommes avec Pétronille de Cantecor qui, après la Révolution, pendant la Révolution, après la Révolution, va commencer à donner naissance à cette industrie qui va avoir un rôle si fondamental pour la commune de Sept-Fonds d'abord, et puis pour les communes environnantes, Caussade, y compris Caylus, Saint-Antonin, Mirabel un petit peu aussi, Réalville, Montricou. Il se trouve, et c'est là qu'on s'intéresse à une femme, Non seulement elle crée cette industrie, mais aussi elle donne naissance aux enfants qui vont poursuivre l'effort qui est le sien, qui vont poursuivre l'ingéniosité qui est la sienne, afin de fonder cette industrie. Et les enfants en question, nous en parlerons après la petite pause musicale, les enfants en question, ce sont aussi bien les garçons que les filles par les mariages qu'elles vont faire. Ce qui fait que Cantecor, c'est Pétronille, c'est Fortuné et c'est les autres. Cantecor, on va dire aujourd'hui, c'est une opération multi-activité, ouais, puisque c'est toute une famille qui, à elle seule, révolutionne le secteur qui nous occupe aujourd'hui. Donc, une petite pause d'abord pour se relancer dans la famille Cantecor et ses à côté.
Chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre Sète et Marseille, quel est le bon vent qui l'avait chipé. Le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre Sète et Marseille, quel joli vent l'avait chipé. C'est pas le Zéphyr aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'ont joufflu, c'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus fol et le plus magistral de la bande à Éole, en un mot le Mistral, il me l'a fit connaître aussi dorénavant, je ne moue plus mon blé qu'à des moulins avant. Quand la jupe à Mireille, on se troussa, on se détroussa, découvrant des merveilles, quel est le bon vent qui s'est permis ça. Quand la jupe à Mireille, on se troussa, on se détroussa, découvrant des merveilles, quel joli vent s'est permis ça. C'est pas le Zéphyr aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'ont joufflu, c'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus fol et le plus magistral de la bande à Éole, en un mot le Mistral, il me montra sa jambe aussi reconnaissant, je lui laisse emporter mes tuiles en passant. Quand j'embrassais Mireille, qu'elle se cabra, qu'elle me rembarra, me tira les oreilles, quel est le bon vent qui retint son bras. Quand j'embrassais Mireille, qu'elle se cabra, qu'elle me rembarra, me tira les oreilles, quel joli vent retint son bras. C'est pas le Zéphyr aurait pu suffire. C'est pas lui non plus, là qui l'on joue flux. C'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus fol et le plus magistral de la bande à éole en un mot, le Mistral. Il m'épargne à la gifle aussi dessous mon toit. Il y avait une seule girouette, il y en a maintenant trois. Et quand avec Mireille, dans le fossé, on s'est enlacé, à l'ombre d'une treille, quel est le bon vent qui nous a poussé. Et quand avec Mireille, dans le fossé, on s'est enlacé, à l'ombre d'une treille, quel joli vent nous a poussé. C'est pas le Zéphyr n'aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'on joufflu, c'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus fol et le plus magistral de la bande à éole en un mot, le Mistral. Il me coucha sur elle en échange, aussitôt j'ai mis une voile de plus à mon petit bateau. Quand j'ai perdu Mireille, que j'ai penché le cœur affligé, des larmes sans pareille, quel est le bon vent qui les a séchées. Quand j'ai perdu Mireille, que j'ai penché le cœur affligé, des larmes sans pareille, quel joli vent les a séchées. C'est pas le Zéphyr aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'on joufflu, c'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus fol et le plus magistral de la bande à éole en un mot, le Mistral. Il balaye à ma peine aussi sans lésiner, je lui donne toujours mes bœufs à décorner.
Vous écoutez l'émission À nos mémoires, le portrait de Jean d'Issy, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35. Avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damagio. Bien sûr, je vous remercie de suivre cette émission qui touche cette fois Pétronille Cantecor. Nous n'allons pas entrer dans l'ensemble de l'arbre généalogique de Pétronille ou Perrette. Ça serait bien sûr un petit peu long. Simplement, nous allons pointer quelques-uns des personnages qui ont maintenant leur nom de rue à cette fond. Au cimetière, ils ont leur grande bâtisse qui sont d'ailleurs un petit peu laissées à l'abandon. Nous allons commencer par l'aîné. L'aîné, c'est Guillaume. Donc l'aîné du mariage de Perrette et de Jean Cantecor, qui lui était simple agriculteur, hein, un simple paysan. Donc le premier c'est Guillaume, et c'est Guillaume qui lui-même va donner naissance à Fortuné. Alors on pourrait bien sûr dire tiens un prénom prédestiné, hein, parce que Fortuné fut effectivement Fortuné, même si au départ il n'est pas marchand, il n'est pas chapelier, il commence comme beaucoup dans la famille par être tailleur de pierre. Donc il naît en 1821 et il va devenir à partir de 1850 un des marchands essentiels du monde des marchands de chapeaux. Il y a aussi un autre fils qui s'appelle Blaise, une autre fille qui s'appelle Marguerite. Et Marguerite va, elle, se marier avec Pierre-Miquel. Pierre-Miquel, qui lui-même est un cordier, fils de cordier, il vient de Grenade-sur-Garonne, et lui aussi va donner lieu à une dynastie, si je puis dire, de fabricants de chapeaux de paille. Jean-Miquel, son frère, se marie, lui, avec Rose Herminck, qui est une autre famille de fabricants de chapeaux, qui, elle, est liée au monde des aubergistes. Bref, la famille Cantecor, donc, est au cœur de l'ensemble du monde, un petit peu, qui se construit du monde des fabricants de chapeaux. La fabrication des chapeaux va très vite évoluer. Elle va bien sûr se faire d'abord avec la paille qui est ici, hein. Mais il va y avoir ensuite carrément importation de tresses, exportation aussi d'ailleurs, hein, envoi de tresses et aussi réception suivant les chapeaux que l'on veut faire. Le marché de l'Albenque, qui n'était pas à ce moment-là le grand marché de la truffe, ou quoique, peut-être, il faudrait que je vérifie, était, c'est sûr, un des hauts lieux comme d'ailleurs la gare de Saint-Antonin, à partir des années 54, un des hauts lieux de l'exportation de ces chapeaux de paille. C'est donc très important de comprendre un petit peu le cas de Pétronille, et parce que c'est une femme, hein, parce que par son ingéniosité, elle crée cette industrie qui va employer, faut-il le rappeler, des centaines de personnes. Bien sûr, cette industrie, on le sait, elle va ensuite descendre sur Caussade, puisque le train de la voie ferrée Toulouse-Paris passera par Caussade et non pas par Sept-Fonds. Mais à l'origine, au point de départ, il y a toujours Pétronille-Cantecor. Et donc j'avais commencé cette émission en évoquant un petit peu les erreurs de la légende qui la ferait naître après sa mort. Hein, c'est un peu fort quand même. Mais il faut dire que c'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que le monde de l'industrie, eh ben, apporte peu de documents aux archives départementales sur l'activité même de ces industries, ce qui rend difficile leur connaissance. Moi, j'avais été attiré par le sujet, non pas par une vision quelconque des personnes, mais par un article bien précis qui avait été publié dans Le Républicain. Le Républicain, justement, l'ancêtre du journal dont nous parlions avec le cas de Albert Cavaillé. Donc, Le Républicain, du 7 février 1892, a publié, à mon sens, un article des plus fondamentaux sur le sujet, article que j'avais édité et que, je crois, j'ai mis sur Internet. Il faudrait que je vérifie. Malheureusement, cet article est signé de la lettre L seulement. Je vais en reprendre deux petits éléments concernent Pétronille et qui concernent justement la réflexion sur le monde industriel. Comment étudier le monde industriel? C'est une grande question si on veut réfléchir à l'évolution de notre contrée, de notre département. Donc voici ce qu'écrit elle. Dans son chapitre 3 de l'article, figurez-vous une bergère, une pastoure, comme on dit chez nous, menant paître ses brebis et assemblant, pour amuser ses doigts inoccupés, des brins de jonc, des brins de paille, fabriquant la première tresse, et de ce fait très simple, presque banal, jaillit l'étincelle. Pétronille Cantecor met son idée à profit, cherche, travaille, étudie, se perfectionne, et après avoir fait la tresse, coud le chapeau, après quelques essais et déjà passé maître dans la partie, elle a bientôt fait de reconnaître que la paille des endroits secs et pierreux, plus fine, plus blanche, convient mieux à la fabrication. Aussi, est-ce dans le Cos qu'elle fait ses élèves et propage son idée à l'Albinque, Caylus, puis la Roque. Elle enseigne les femmes qui utilisent ainsi les loisirs. Bon, les loisirs, je trouve que c'est un petit peu exagéré, mais enfin, qui utilise ainsi les loisirs que laissent les travaux des champs. Partout, elle apprend à tresser et à coudre. Elle commence bientôt un petit commerce de chapeaux de paille, de femmes, avec le Haut-Rouergue, Villefranche, Rodez. C'était en 1798. Cette fonds industriel et commerçant venait de naître. Donc, ce personnage, je pense, a bien connu, et il explique, a bien connu l'ensemble du dossier. Il commence son article ainsi, d'ailleurs. Ceux qui connaissent et aiment cette fond, ceux qui se passionnent pour le progrès industriel et le suivent dans ses moindres manifestations, trouveront sans doute quelque intérêt à connaître l'origine de la fabrication des chapeaux de paille dans notre contrée. Peut-être vais-je éveiller certaines susceptibilités et froisser quelques prétentions, mais c'est guidé par un ordre d'idées plus élevé et des considérations moins mesquines que j'écris ceci. Me rappelant le vieux précepte latin, les paroles volent, les écrits restent, j'ai cherché dans le passé des faits et des dates. Aussi, est-ce de documents écrits peu suspects, par conséquence de mauvaise mémoire ou de complaisance, que cette étude est faite. Donc, voilà un personnage qui a essayé d'étudier Pétronille, qui montre bien comment, dès 1798, va naître cette industrie du chapeau et cette force qui sera celle de Sept-Fonds et des environs. La famille Quintecor, c'est pas le nom de Pétronille, hein, c'est le nom de son premier mari. Donc c'est une femme, bien sûr, elle n'est pas reconnue pour son nom personnel, Perrette Gleille. Elle est connue par un mari et par le premier, celui qui n'a rien à voir avec l'invention qu'est la sienne. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les actes d'état civil, puisque elle va y être très souvent dans les actes d'état civil, vu qu'elle se marie deux fois, vu que elle, elle a des enfants, mais là c'est pas elle qui signe, bien sûr. Donc, il faut se référer aux deux actes de mariage, et sur les deux actes de mariage, on s'aperçoit qu'elle ne savait pas signer. Donc voilà quelqu'un qui est une femme du peuple par excellence. Une femme du peuple, et je crois, j'ai tendance à penser, que parce que c'est une femme du peuple, ce qu'il y a de plus basique, hein, si je puis m'exprimer ainsi, on n'a pas porté sur son cas toute l'attention qu'elle mérite. On a la démonstration qu'à partir de la Révolution, elle... mais sans doute dans bien d'autres endroits, dans bien d'autres domaines, des individus ont pu apporter à la société tout entière des éléments qui sont des éléments du développement économique. Alors, la question continue, et je vais conclure par ces propos. Il y aurait beaucoup à dire, hein, donc sur Pétronille, hein, et sur l'industrie du chapeau qui va se développer à cette époque, qui est une industrie féminine. Et parce que là aussi, il faut observer ça, hein, c'est que les femmes, on croit qu'elles ont aucune place dans le monde industriel. Elles en ont une place quand on la leur fait comme les hommes. Donc bientôt, dans tout le Causse, on se met à faire des paillolles. On tresse comme ailleurs, on tricote ou on file. Au parquage pendant le jour, au coin du feu le soir, à la veillée, les rouleaux de tresse s'allongent, tant et si bien que la production s'accroît rapidement, dépasse les besoins. Alors commence un commerce de tresse, avec les manufactures existant déjà depuis longtemps en France, mais parfaitement ignorées jusqu'alors de cette forme. Des industriels, comme M. Le Borgne de Grenoble, par exemple, s'adressent aux sept fontois, et de cette époque, la tresse plate de sept fonds fait sa première apparition dans la chapellerie. En même temps, l'Albenque, Caylus, Montpezat, puis la Roque, etc., les foires s'animaient autour des voitures capotées des sept fontois. Les vendeuses, voyez encore une fois la présence des femmes, hein, les vendeuses, venues de tous côtés, affluaient, et pendant une heure ou deux, c'est un vrai coup de feu où, malgré les apparences, il se brassait de fortes affaires. Marché rapide et plein d'entrain, où l'activité et le coup d'œil entraient pour beaucoup, où souvent le plus habile était le plus gai, où les bonnes femmes de la campagne, traitées de père avec les fabricants bon enfant, riaient, disputaient, plaisantaient et lâchaient enfin leurs marchandises à bon compte. Donc, en 1846, c'est vrai, Pétronille Quintecor est morte, léguant à son pays l'industrie dont il peut aujourd'hui faire à bon droit sa gloire. Donc, Pétronille Quintecor a-t-elle beaucoup de rues dans notre département? Elle le mériterait, et je vous remercie. La prochaine fois, nous parlerons d'un accordéoniste qui s'appelle Tony Meller. Merci. Vous écoutez l'émission À nos mémoires, le portrait de Jean d'ici, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damagio.